Une rencontre avec le berger du Ménézom, Patrick Sastre-Quader, qui nous a présenté sa race de moutons, les Landes de Bretagne. Il nous a expliqué le quotidien de son métier. Il nous parle aujourd'hui d'un sujet délicat qui, depuis que Jean Causeur a fait ce reportage, a bien évolué. Déjà, Patrick Sastre a subi récemment les attaques de deux chiens qui rôdent dans les parages, qui ont attaqué plusieurs troupeaux, dont le sien, et fait pas mal de dégâts. Et puis, vous le savez, un loup a été observé pour la première fois depuis bien longtemps en Bretagne, même en Finistère. Et ça, ça change la donne pour le berger qui va nous expliquer pourquoi et comment. Petite précision utile, Patrick Sastre est biologiste de formation.
Le berger ou éleveur de moutons est un métier plurimillénaire. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'un de ces professionnels de l'élevage en plein air, au pied du Ménézom à Dinéol. Aujourd'hui, le loup est dans la bergerie. Le loup et sa réintroduction dans nos campagnes créent des craintes parmi les éleveurs.
Oui, donc je suis Patrick Sastre-Quader, je gère la bergerie du Ménézom que j'ai créée il y a une dizaine d'années. Et donc sur cette ferme, j'ai un peu plus de 200 brebis de la race bretonne les Landes de Bretagne. Et ce sont donc des brebis qui à la fois vont sur le Ménézom en période estivale pendant 3 ou 4 mois. Et le reste du temps, elles pâturent de grands verts pâturages verdoyants à la bergerie sur la commune de Dinéol.
Pourquoi vous êtes devenu berger, enfin éleveur de moutons?
C'est une bonne question.
Il n'y a pas forcément besoin de réponse. Si on a...
Je pense que j'ai une attirance pour les métiers de l'élevage en général, élevage de moutons en particulier, pour la dimension élevage de plein air. Mon souhait étant d'avoir une activité de plein air, confronté aux éléments et avec une activité de production. Aujourd'hui, cette activité de plein air est possible. Donc, je voudrais dire que j'en profite. J'en profite d'autant que d'ici 5 ou 10 ans, cette activité de plein air sera plus possible. En raison de l'arrivée des loups.
Comment dire, j'avais cru comprendre qu'il y avait des solutions par rapport aux chiens d'élevage, comme je pense au patou, ou j'ai vu un border collie, mais après, eux, c'est plus pour gérer le troupeau que pour le protéger. Vous, ça ne vous intéresserait pas par rapport à ce genre de chien qui n'annule pas la perte, mais limite la perte?
Alors, ça, c'est l'usage des chiens de protection dans les troupeaux. C'est un peu la solution tarte à la crème qui est préconisée par les organisations sauvagistes et par l'Office français de la biodiversité. Alors pourquoi j'y tarte à la crème? C'est parce que aujourd'hui il est plus que prouvé que tous les troupeaux qui ont des chiens de protection ont malgré tout des attaques. Des attaques avec mort ou des attaques sans mort. Là, il faut suivre les données d'organisations sérieuses telles que le CERPAM ou de certains chercheurs du CNRS et de l'INRA pour constater que c'est pas parce qu'un troupeau est protégé par des chiens de protection et qu'il est protégé par des parcs électrifiés qu'il n'y a pas d'attaque. Donc, comme vous le disiez, effectivement, ça réduit les attaques, mais ça ne les annule pas. L'incidence que ça a, c'est que en fait on se retrouve dans des situations où pour chaque troupeau on est obligé d'avoir au minimum entre 8 et 10 chiens de protection, parce qu'en fait à partir du moment où vous avez une meute de 8 ou 10 loups, bah, il faut que les forces soient équilibrées. Donc ça veut dire que par exemple moi qui actuellement ai 4 lots de mes moutons, il faudrait que j'ai entre 8 et 10 chiens de protection par lot. Donc je me retrouve à être éleveur de 200 moutons et de 40 chiens de protection. Je ne suis pas certain d'avoir signé pour ça. D'autre part, en fait, ensuite vous avez une course à l'agressivité des chiens de protection, qui fait qu'on passe du gentil patou de la Belle et Sébastien au Kangal utilisé dans les plaines de Turquie, là qui sont des chiens beaucoup plus agressifs. Et après, on se retrouve avec des questions de cohabitation entre l'activité d'élevage, les chiens de protection et les autres usagers de l'espace rural ou les autres usagers de la nature. Donc en fait, on a des animaux qui sont dans une situation pour protéger le troupeau, qui la nuit protègent le troupeau contre les attaques de loups ou qui éloignent d'autres animaux étrangers au troupeau. Ça peut être des renards, des blaireaux, des putois, tout ce qu'on veut, enfin bon, peu importe, ça peut être un chevreuil, voilà, puisque sa fonction c'est de protéger le troupeau contre toute intrusion extérieure, et qui le jour se retrouve dans des situations identiques de protection, avec à la fois des attaques de loups, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment dans le sud de la France, dans le sud-est de la France, on a des attaques de jour, puisque de plus en plus de moyens de protection sont mis en œuvre la nuit, et qu'à un moment donné, le loup, faut bien qu'il mange, faut bien qu'il attaque, donc ce qu'il ne peut pas faire la nuit, il le fait le jour, notamment à partir du moment où les animaux sont libérés des parcs de nuit, mais par contre, les chiens de protection sont toujours là en situation de protéger les troupeaux, mais en plus, il y a des éléments extérieurs qui arrivent, qui sont des promeneurs, des ramasseurs de champignons, des chasseurs, pourquoi pas même des naturalistes qui passent par là et qui se font, pas dans un premier temps croqués par les chiens de protection, mais dans un second temps s'il y a une très mauvaise réaction de la part de l'intrus à deux pattes, où là, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Donc ça veut dire que on se retrouve dans un schéma où l'espace rural, en fait, devient une espèce de guerre permanente entre la prédation des loups d'un côté et la protection contre les loups de l'autre. Ce qui fait que quelque part, ça devient invivable. Ensuite, pour répondre à votre question, est-ce que ça ne me dit pas d'avoir des chiens de protection ? Ça ne me dit pas pour deux raisons. Donc ça, c'est déjà cette première raison. La deuxième raison, c'est une raison aussi en termes de biodiversité, c'est-à-dire que les chiens de protection, comme tous les chiens, comme tous les loups, sont des canidés, et donc ce sont des chasseurs. Donc c'est-à-dire qu'eux aussi participent à chasser la faune sauvage qu'il y a autour d'eux. Donc ça veut dire qu'ils peuvent chasser du chevreuil, ils peuvent chasser du blaireau, du putois, etc., du renard. Il faut savoir que, par exemple, en zone de montagne, principalement dans les Alpes, c'est pas rare que vous avez des bergers, des éleveurs qui se font aligner par les gardes de l'OFB, donc de l'Office français de la biodiversité, parce que vous avez un patou qui est allé bouffer une marmotte ou un mouflon. Voilà, donc on oblige les gens à avoir des chiens de protection, mais ces chiens de protection font eux-mêmes un certain carnage sur l'écologie, sur la biodiversité locale. Et puis le troisième point, c'est que j'ai déjà fait cette expérience, parce que j'ai eu jusqu'à 3 chiens de protection dans mon troupeau. Et lorsque vous êtes réveillé de 6h du matin et sollicité au téléphone jusqu'à 11h du soir, parce que vos chiens de protection sont dehors, parce que les chiens de protection, ce sont, comme je vous dis, ce sont des gros animaux qui ont aussi des besoins d'espace, qui sont aussi des chasseurs. Donc pour peu qu'il y ait un chevreuil qui passe par là ou quelque chose comme ça, il va aller à la poursuite du chevreuil et va se retrouver sur la route, sur l'axe, pourquoi pas, Châteaulin-Crozon, avec tous les problèmes de circulation qu'il peut y avoir, les problèmes d'accident. Et comme chacun le sait, le propriétaire du chien est responsable de l'élévation de son chien et donc responsable des accidents afférents. Voilà. Donc ça veut dire que dans un milieu qui est densément peuplé, et densément quand même malgré tout, entre guillemets, on va dire urbanisé, qu'est la Bretagne, l'arrivée de chiens de protection des troupeaux sera une catastrophe pour tout le monde, parce que des accidents vont se multiplier, que ce soit des accidents de la route, que ce soit des accidents entre le chien de protection et les promeneurs, que ce soit des accidents sur la biodiversité, puisqu'on a une biodiversité qui est quand même assez fragile en Bretagne, entre les zones urbanisées, les zones agricoles qui quand même un petit peu standardisent les milieux. Hein. Donc les milieux qui ne sont pas trop je dirais, imprégné de l'humain, même si l'anthropisation des milieux est quand même générale sur tout le territoire français, qu'il soit métropolitain ou qu'il soit insulaire ou qu'il soit des dom-toms, nécessairement sera fragilisé par l'arrivée du chien de protection et par l'arrivée des loups. Si vous préférez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au sujet des loups, on est dans une doxa. C'est-à-dire qu'il y a une vérité institutionnelle. Et cette vérité institutionnelle ne souffre d'aucune critique. Par exemple, le fait aujourd'hui de dire que le loup est une espèce, déjà, biologiquement parlant, et si on se réfère à la systématique, donc la classification des espèces, c'est déjà honteux de dire ça. Or, le nombre de journalistes, le nombre de pseudo-scientifiques, le nombre de vétérinaires qui viennent défendre l'espèce loup, sans même remettre en question le fait que ce n'est pas une espèce mais une sous-espèce, déjà, on part mal. On part sur un présupposé qui est faux. En fait, ce n'est pas la science qui a raison, c'est le narratif. Donc, c'est l'histoire qu'on met autour d'un fait. Et donc on arrive à un point où effectivement, moi pourquoi pas, je pourrais raconter une histoire en disant que le chihuahua est une espèce à protéger, et non parce qu'on en arrive là si vous préférez. Oui. C'est-à-dire que le chihuahua, quelque part c'est pas une sous-espèce, c'est une race, mais on pourrait même dire qu'en quelque sorte, si on s'intéresse vraiment à la biologie pure et même à la génétique, que... les loups étant interféconds avec les chiens, si on prend la grande famille des canidés, le grand genre des canidés, même l'espèce des chiens, du Canis lupus, qu'en fait, que dans Canis lupus, tous les individus étant interféconds, quelque part que le loup, comme le chien, sont, comme les races de chiens, sont une race, sont des races. Voilà. Moi, qu'on m'explique en quoi, biologiquement parlant, on devrait privilégier une race plutôt qu'une autre. À part pour une seule chose, qui est de dire que vous avez des chiens domestiques et il reste un chien sauvage qui s'appelle les loups. Voilà. Donc, est-ce que on peut imaginer qu'on doit mettre à bas la biodiversité naturelle et les élevages de plein air uniquement pour un animal dont finalement on s'est passé depuis plus de 100 ans sans que ça pose un problème à la biodiversité. D'autant que les loups étant des grands prédateurs, bah, y a bien le terme prédateur, donc ça veut dire qu'on rajoute à la prédation humaine de la prédation lupine. Pour protéger la prédation lupine, on rajoute de la prédation canine, avec les chiens de protection des troupeaux. Donc en fait, on est dans une suraccumulation de prédateurs et de grands prédateurs dont, dont les milieux sont, sont les premiers impactés. Que ce soit des espèces d'oiseaux, que ce soit des espèces de mammifères. Alors moi, le plus gros risque que je peux avoir au niveau de mon troupeau, ce sont les attaques de chiens. Autrement dit, de loups domestiques. Voilà. Aujourd'hui, ouais, c'est vraiment le plus gros problème qu'il peut y avoir. Donc j'ai eu deux attaques de chiens en 10 ans. Et à chaque fois, j'ai eu la chance d'avoir des propriétaires responsables. Donc qui ont reconnu que c'était leur chien. Donc ça a permis de... Ça a permis de faire jouer les assurances, d'être indemnisé. Bon, ça n'a pas ramené à la vie les brebis. Et à chaque fois, en plus, c'était les jeunes brebis qui étaient là pour le renouvellement. Donc à chaque fois, ça fait un trou dans le renouvellement du troupeau. Donc économiquement, bah, ça reste un problème, puisque comme c'est une race à petits effectifs, bah, on ne trouve pas comme ça des reproducteurs. Et puis bah, les brebis, les moutons, tout ça, bah, c'est des êtres vivants, donc c'est pas comme des boîtes de conserve. Hein, donc on se dit pas, bah tiens, j'ai des brebis qui ont été tuées par un loup ou par un chien, bah, allez, je vais aller à Leclerc et je vais aller récupérer des brebis pour remplacer mes brebis mortes. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un souci. Effectivement, c'est... C'est la course aux reproducteurs quand on travaille en race rustique locale à petits effectifs. C'est que chaque acte de prédation a une grande conséquence sur le troupeau. Quand c'est pas, comme ça arrivé une fois, aussi des avortements sur le troupeau. Et donc là, pour le coup, non seulement on perd l'animal, mais en plus sur les animaux restants, on perd potentiellement des agneaux qui auraient pu naître, mais qui ne naissent pas parce que les brebis ont été traumatisées par l'attaque et ont perdu leur agneau.
L'élevage de Patrick Sastre-Quadère a dernièrement été attaqué par des chiens errants, le forçant à envisager des évolutions pour le court et moyen terme afin d'assurer la protection de ses bêtes.